bon, pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Je prends le temps à nouveau de... Tout ça, je l'ai découvert en écrivant, parce que, je prends le temps de le dire, parce que là, on est aussi sur un phénomène cyclique, où là, à nouveau, depuis quelques années, il y a l'entrée de l'armée dans les écoles à marche forcée extrêmement fort, extrêmement vite, et avant même que... les syndicats enseignants aient le temps de vraiment réagir. Il y a des dispositifs comme les classes défense qui sont mis en œuvre depuis 2015 au nom de l'antiterrorisme. Et donc c'est un système qui est extrêmement vicieux parce que ça permet à une classe de faire un partenariat avec l'armée pendant un an. Donc les enfants peuvent aller dans la caserne, les soldats viennent en classe. Enfin, il y a un échange, quoi. Mais on acclimate du coup des enfants à l'armée. Et c'est pourquoi je dis que c'est pernicieux, parce que faut quand même que ça vienne de la demande d'un prof. Donc voilà, moi là j'ai parlé à des profs, je sais pas, tel prof d'histoire un peu de droite, il dit bah moi je vais faire une classe défense. Donc l'armée est super contente, hein. Ok, classe défense. Forcément quand il y a d'autres profs qui disent ouais mais moi j'ai pas envie d'y participer, ils passent pour des rabat-joie et des mauvais républicains, etc. Donc en fait il y a une espèce d'autocensure assez généralisée. Les classes défense, c'est un phénomène là qui est en train de se multiplier, puisque ce dispositif, il existe, il touchait quelques centaines de classes en France, ce qui est pas énorme, mais là ça augmente très très vite. Il y avait un camarade prof du Var, il disait il y a déjà 200 classes défense dans mon département. Alors vous allez me dire c'est pas le département le plus à gauche de France, c'est vrai, mais voilà, c'est ça qu'ils essayent de faire. Donc des classes défense dans les rectorats, il y a ce qu'ils appellent un trinôme académique avec un représentant, donc le recteur qui représente l'éducation nationale, un militaire et un conseiller voilà lié à la défense qui donne des conseils, qui peuvent orienter, donner des conseils, etc. Et puis il y a une très forte il y a des dispositifs comme les bulles de la défense. Voilà, c'est les enfants qui vont faire des BD sur l'armée. Enfin, il y a plein de petits dispositifs qui existent, quoi, qui demandent qu'à se développer. Et Jean-Noël Barrot, donc le ministre des Affaires étrangères, il a déclaré l'an dernier, le réarmement doit commencer sur les bancs de l'école. Donc ça aussi, c'est clair, c'est dit. Et donc sur tout ce volet éducatif, il y a l'école, bien sûr, il y a les lycées avec les classes défense, mais il y a aussi les universités. Et là, ces derniers mois, on voit énormément d'interventions, notamment de généraux dans les facs, qui viennent parler. Alors là, c'est pas tellement pour dire venez rentrer, devenir fantassin, c'est plutôt venez dans, devenez ingénieur pour Thalès, veuillez rentrer dans l'industrie de l'armement, ou éventuellement dans les corps d'encadrement de l'armée, voyez, un peu autre chose. Et de l'autre bout de la chaîne, on va dire, des classes sociales, c'est plutôt des recrutements dans les quartiers populaires. Ils installent énormément de centres de recrutement, en tout cas à Nantes, on a vu dans les cités, de la Légion, etc. Là, c'est encore autre chose. C'est le néolibéralisme ne vous promet aucun avenir. Et ben, nous, on vous en offre un avec un uniforme, une arme et un statut. Donc voilà, il y a tout un tas de volets. Je vais pas tous les développer. Guerre et patriarcat, bien sûr, avec aussi une lecture... dialectique, puisque les femmes sont les premières victimes des guerres, puisque le viol de guerre est conceptualisé par les armées depuis l'Empire romain, peut-être même avant. qu'elles sont voilà, mais les femmes sont aussi en première ligne de l'antimilitarisme depuis qu'il y a des luttes antimilitaristes. Je parlais de Rosa Luxembourg tout à l'heure. On parlait avec avec toi de Pinard Sélec aussi. Pinard Sélec qui a émis des, enfin créé des excellentes analyses sur le rapport entre masculinisme et armée, hein, qui qualifie l'armée de chaudron du, enfin la masculinité, le chaudron de la masculinité, c'est l'armée. Donc elle le dit très bien comment l'armée, du coup, pour le coup turque, qui est une armée, puisque les, voilà, je disais les. La guerre comme à l'origine des États, l'État turc est créé par la guerre, le génocide et le nettoyage ethnique. C'est ça, c'est un militaire qui fait un nettoyage ethnique et qui dit voilà la Turquie c'est ça. Et donc l'armée c'est une institution très très forte en Turquie et c'est un chaudron de la masculinité parce que c'est là-dedans qu'on à la fois qu'on brise les hommes et qu'on leur apprend à être violents, à obéir et voilà et à renvoyer la violence qu'ils ont subie aussi. Elle dit ça beaucoup mieux que moi. Je vous invite à consulter son travail. Les liens, et puis, donc tout ça, c'est un peu des choses de, qu'on connaît, et puis il y a quelques parties quand même qui visent à un peu renouveler ce logiciel, et donc notamment le lien entre guerre et écologie, enfin guerre et écocide plutôt, parce que le mot d'écocide qu'on entend énormément, qui a été popularisé par les soulèvements de la Terre, on parle beaucoup d'écocide pour les mégabassines, la pollution, etc., le mot écocide, il vient de la guerre. Il vient de la guerre du Vietnam. Le mot écocide, il apparaît dans les années 70. Il est inventé par un chercheur des États-Unis, Arthur Galston, qui va désigner l'écocide à partir de l'agent orange utilisé par l'armée des États-Unis au Vietnam. Et là, vraiment, c'est la définition, je pense, la plus pure et parlante. C'est-à-dire que l'armée des États-Unis ne s'est pas contentée de mettre un tapis de bombes, de napalm, de meurtres, de villages incendiés. Ils ont aussi organisé délibérément, bon, d'une part de la géo-ingénierie pour noyer les routes vietnamiennes, mais surtout l'épandage de millions de tonnes d'herbicides toxiques pour dévaster la jungle du Vietnam. Alors officiellement, c'était pour priver la guérilla vietnamienne de ses plans de repli. Très bien, mais en réalité, c'était aussi pour empoisonner toute une population, donc l'empoisonner durablement, puisqu'encore aujourd'hui, il y a des millions d'enfants et de petits-enfants qui portent les stigmates de l'empoisonnement de l'agent orange, produit par Monsanto, hein, j'ai oublié de le dire. Mais c'est aussi une technique pour briser tout un tissu social et un rapport à la terre et un rapport à son environnement direct. Et cet écocide, on le voit ces dernières semaines avec Israël qui fait exactement la même chose, qui envoie des pesticides hyper concentrés dans le sud Liban, en Syrie, pour en fait pour rendre impossible toute culture dans les zones qui vont être annexées. Donc il y a vraiment cette même logique de dévaster. Alors l'armée française en Algérie faisait pareil, a dévasté les champs. Israël aussi saccage les oliviers, vous voyez. Bon, il y a vraiment ce rapport entre la guerre et la destruction de la nature et de l'environnement, de la prédation aussi, hein, bien sûr, qu'on retrouve de façon très claire. Et puis, inversement, il y a des liens très forts entre l'agro-industrie et l'industrie militaire, depuis toujours. Puisque, vous le savez, les engrais dépendent de l'industrie pétrolière. Voilà, l'industrie pétrolière qui elle-même dépend de la guerre et de le pillage des ressources. Mais Monsanto qui fabrique des herbicides qui sont utilisés dans la guerre, etc. Mais d'une certaine manière, l'agro-industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une militarisation du rapport à la terre. Hein, c'est un rapport de guerre vis-à-vis de la terre et du vivant, ça s'illustre assez clairement en 14-18, c'est-à-dire que les premiers tracteurs vont être convertis en premiers blindés sur le champ de bataille. Oui, il y a aussi cette logique-là. Et ensuite, les fabricants des premiers blindés vont produire beaucoup de tracteurs. Donc il y a ce regard. Et puis, il y a toute une partie sur les nouvelles technologies, hein, tout ce qui est drone, intelligence artificielle, puisque nous avons assisté à la première opération génocidaire pilotée par intelligence artificielle à Gaza, puisque l'armée israélienne a utilisé des logiciels pour générer des cibles automatiquement pour bombarder Gaza, hein, vous avez suivi ce dossier, des données fournies par Google, etc., enfin, les géants de la tech, avec un paramétrage, c'est pour une cible potentielle du Hamas, on veut pouvoir tuer, enfin, on donne l'autorisation de tuer 50 personnes autour. Et donc voilà, donc en plus c'était pas forcément très bien paramétré, mais donc en gros le logiciel a généré des dizaines de milliers de cibles qui ont servi à pilonner Gaza et à massacrer en réalité des milliers de personnes. Donc il y a toute une analyse sur le technofascisme et le technoféodalisme, où là nous sommes dans des situations où il y a des géants de la guerre, comme Palantir, des géants numériques de la guerre, comme Palantir, qui est une énorme firme des États-Unis qui traite des données, parce que c'est ça la guerre du futur, hein, c'est traiter des données à grande échelle pour pouvoir frapper plus vite et plus fort et plus efficacement. Et Palantir, c'est littéralement une entreprise dirigée par un fasciste qui s'appelle Peter Thiel, qui est proche de Donald Trump. Et quand on, bon, après on peut discuter du terme techno-féodalisme, hein, qui est contesté, mais là on a atteint un niveau où des firmes comme Palantir sont tellement fortes et tellement puissantes que c'est même plus tellement Palantir qui travaille pour l'armée américaine, mais l'armée américaine qui travaille pour Palantir, puisque là on a des, et de même que Elon Musk, hein, on a des milliardaires proches de Trump qui sont quasiment en position de dicter comment et quand faire la guerre. Et donc par exemple, ces milliardaires de la tech, ils ont besoin de ressources, ils ont besoin de terres rares pour faire fonctionner des data centers, etc. Et en fait, ils sont quasiment en capacité finalement eux-mêmes de dicter quelle cible il va falloir attaquer pour piller. D'ailleurs, on le voit, hein, là, c'est vraiment de la prédation pure, les guerres états-uniennes. Donc voilà un petit peu pour le manuel. Et puis peut-être, il y a des pistes de résistance, mais peut-être je peux vous laisser la parole parce que j'ai déjà parlé un peu trop longtemps. Et voilà, ce qu'on peut faire, c'est, il y a toute une partie un peu plus théorique sur pacifisme, antimilitariste, etc., antimilitariste, et puis les résistances. Moi, encore récemment, je disais, ils rétabliront pas le service militaire, parce qu'ils en ont pas les moyens, ça coûte trop cher. Il faudrait construire beaucoup de casernes. Je suis un peu en train de réviser mon jugement, parce qu'on voit qu'en Allemagne, par exemple, ils sont en train de recenser tous les jeunes hommes en âge de combattre, qu'ils ont fait passer une loi pour que les jeunes hommes déclarent s'ils veulent partir à l'étranger plus de 3 mois, puisqu'il faut quand même pas être trop loin. En cas de crise militaire, et puis il y a eu l'annonce de Macron sur le service militaire volontaire. Mais tu as raison, moi je pense que pour l'instant, en tout cas dans les quelques années qui viennent, ils n'ont pas tout simplement les moyens logistiques et d'enrôler toute une classe d'âge. Mais ce que disent des gens comme Le Cornu, c'est que ça ne les intéresse même pas. Ils préfèrent avoir une armée de métier comme celle qui existe, mais ils veulent une armée, ce qu'ils appellent une armée hybride, avec un corps de réserve, pour le coup, qui est important. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir beaucoup de réservistes qui font des stages dans l'armée et qui sont prêts à prendre les armes en cas de guerre, en plus des 200 000 militaires professionnels français. Et puis, il y a tout ce discours-là de « il faut que la population soit derrière son armée ». Donc c'est plus ça l'inquiétude, c'est qu'en fait, toute la population devient une sorte d'armée de réserve. Et moi, j'y vois, comme je le disais, il n'y aura pas d'invasion du territoire français. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ou alors, il y a une guerre nucléaire. Donc voilà, ça n'arrivera pas. Par contre, effectivement, créer ce climat de guerre, etc., effectivement, c'est une façon de mettre au pas toute la population et la jeunesse et de l'habituer à l'uniforme. Ils le disent, il faut habituer la population au kaki. Ils le disent, les militaires. Hein. Et effectivement, d'en caserner, y compris dans le monde du travail. Mais vous faire grève, mais vous y pensez pas. Dans le contexte géopolitique actuel. Mais il faut produire, enfin. On voit bien ce qui est en train de se passer. Et puis, effectivement, t'as raison, c'est plus pervers. Parce que, c'est bon, on vous demande pas de faire le service, quoi. En Ukraine, c'est 80% des morts sur le champ de bataille, c'est les drones. Mais ça les empêche pas d'envoyer... Poutine, il envoie des fantassins, il envoie des mecs. C'est entre 500 000 et 1 million de morts. Hein. C'est colossal. Il y a encore ça. Non, mais donc là, les militaires disent qu'il y a une death zone, donc une zone de mort autour des tranchées où plus aucune âme qui vive ne peut venir. Donc là, ils sont emmerdés. Donc ils sont en train de réfléchir les drones, les anti-drones, les machins, les trucs. Mais sauf que pour faire la guerre, il faut tuer des gens. Désolé, je suis très provocateur. Les guerres ne tuent plus les militaires. Voilà, ça, il faut bien le comprendre. Vous voyez bien tout le drame qu'on entend quand il y a un militaire français qui est tué au Liban. Un militaire français. Hein. C'est la France qui s'arrête de fonctionner. Je crois qu'il y a eu plus de ressortissants français parce qu'il y a eu des gamins franco-palestiniens qui ont été tués à Gaza. Au début, là, tout le monde s'en fout. On a plus parlé d'un militaire. Donc, en fait, les guerres, en 14-18, c'était des ratios de l'ordre de, hein, je ne dis pas des chiffres exacts, mais de 90% de morts militaires pour 10% de morts civiles. Depuis les années 90, c'est 90% de morts civiles pour 10% de morts militaires dans les théâtres de conflit. Grosso modo. Mais les ratios à Gaza, au Congo, au Soudan, c'est cet ordre-là, effectivement, de grandeur. Alors, effectivement, avec l'Ukraine qui est une espèce de situation compliquée, parce que c'est une espèce de guerre de 14-18 avec des moyens technologiques avancés. Mais effectivement, les grandes puissances militaires disent « on ne veut plus exposer nos hommes ». Ça, c'est clairement dit, et les États-Unis disent ça tout le temps. Donc, on va vers une guerre sans humains ou avec des humains augmentés. Ils y travaillent à fond, hein. Mais à l'arrivée, il y aura quand même des morts, ce sera des civils.
Ils nous conditionnent. Mais le discours sur la crise, il existe depuis les années 80. C'est juste que là, il y a une accélération.
C'est qu'il faut obéir. Depuis le grand tournant néolibéral, c'est la crise. C'est la crise économique, c'est la crise tout ce que tu veux, sanitaire. Donc ça a permis de faire d'imposer énormément de choses qui ont permis de dilapider l'État social et de réorienter les fonds vers le capital, pour très schématiquement. Mais là, le discours de guerre, c'est un discours de crise XXL, où là, vraiment, tout est possible. Je parlais tout à l'heure de 3 000 milliards de dépenses militaires mondiales cette année. Il y en a 2 000, c'est les États-Unis et l'Union européenne. Donc l'écrasante majorité, parce qu'on parle aussi beaucoup de la Russie, de la Chine, machin, l'écrasante majorité des dépenses, c'est l'Occident, on va dire. Donc déjà, ça, c'est une première réponse. Les dépenses militaires africaines, c'est négligeable, quoi, sur ce tableau-là. Et sur la militarisation. Alors, il y a une partie qui s'appelle France fille aînée de l'armée, un peu provocatrice, mais voilà, où justement je reviens sur d'une part le complexe militaro-industriel français, le Rafale qui se vend partout, etc., mais aussi une tradition militariste française qui n'existe pas forcément dans tant d'autres pays, parce qu'il y a un spectre comme ça dans l'imaginaire politique français sur l'homme providentiel militaire. Depuis Napoléon, en fait, depuis Bonaparte. Et cette figure du militaire qui va sauver la nation, elle ressurgit régulièrement. Donc il y a eu Bonaparte, mais il y a eu Napoléon III. Il y a eu Boulanger, à la fin du 19e siècle. Le général Boulanger, on dit, il va régénérer la nation, il va venir. Et Boulanger, c'est un des précurseurs du fascisme. C'est un homme fort, nationaliste, militaire, qui va nous sauver. Et puis évidemment, Pétain. C'est pareil, le héros de Verdun qui va sauver la nation en collaborant avec les nazis. Et puis il y a De Gaulle. Bon voilà, je mets pas tout le monde sur le pied d'égalité, mais il y a constamment cet imaginaire qui est travaillé. Et là, en France, on a quand même des généraux comme le général De Villiers, donc le frère de Villiers, hein, un mec d'extrême droite, qui est invité constamment sur TF1 pour commenter l'actualité. Et puis il y a quelques années, il y a eu une tribune des généraux. Je sais pas si vous vous rappelez de ça dans Valeurs Actuelles, des généraux français qui disaient. À mots à peine cachés, hein. On va faire un coup d'État si vous faites pas ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc, ils interviennent dans le débat public. Alors, à la fois, on dit la grande muette, mais non, l'armée, elle intervient beaucoup dans le débat public, en réalité. Et donc, il y a cet imaginaire-là. D'une part, la France, c'est aussi, comme je l'ai dit, et d'ailleurs, Mélenchon le dit, la France présente sur tous les continents et dans tous les océans, etc., elle est présente militairement dans tous les océans. Voilà. Donc on est un des pays, en tout cas ce qu'il en reste de l'Empire français, et la France est un des premiers pays au monde qui a instauré la conscription. C'est-à-dire que, je suis passé rapidement là-dessus, mais pendant des siècles en tout cas de l'époque féodale, c'était la noblesse, son rôle était de faire la guerre. C'est ce qui lui donnait sa légitimité. Mais finalement, il y a des bastons, quand on regarde bataille de Bouvines, des choses comme ça, il y a le sort de toute l'Europe qui se joue avec l'armée française qui se bat contre des armées coalisées. C'est 12 000 mecs sur un champ de bataille. Il y a 3 000 morts. Bon, si on en était encore là et qu'on pouvait mettre 10 000 équivalents de nobles se foutre sur la gueule, à la limite. Et donc, ce qui s'est passé à partir de la Révolution française, mais la Prusse faisait ça un peu aussi, la conscription. Hein, donc, on n'est pas les premiers, mais la France, à partir de la Révolution française, a fait une armée de citoyens, ce qui est hyper malin, parce que c'est plus quelques milliers de mercenaires et de nobles qu'on met sur le champ de bataille, c'est des centaines de milliers. Donc là, d'un seul coup, les boucheries, elles changent complètement d'échelle. Ça, c'est un peu un problème. Et ensuite, tout le monde a imité ce modèle-là de la conscription. Donc voilà, ça, c'est sur la dimension française. Et puis la France a été motrice dans des doctrines militaires. puisque la doctrine contre-insurrectionnelle, c'est l'armée française qui l'imagine pendant les guerres d'Algérie et du Cameroun. On ne parle pas du Cameroun où la France a fait une guerre très très sale pendant la décolonisation. Et donc, c'est des doctrines qui sont toujours utilisées. Hein. C'est en gros résumé terreur et séduction. Séduction du plus grand nombre, par la propagande, par tout un tas de dispositifs, et terreur en écrasant le plus fort possible l'ennemi désigné, torture, disparition. Et ça, ça a été utilisé par toutes les dictatures d'Amérique latine, parce que les officiers français sont partis former, ils sont allés même dans l'école des Amériques, qui formait directement les armées d'Amérique latine sous l'égide des États-Unis. Hein, donc, et voilà, et pendant des auteurs français comme Galula, ils sont lus encore aujourd'hui au sein de l'armée des États-Unis. Donc voilà, il y a une tradition militariste française qui est particulière. Ça ne veut pas dire qu'on est les plus militaristes. Et donc peut-être, sur ta question immédiate, les Allemands, par exemple, il faudrait peut-être s'inquiéter un peu. Parce que les Allemands, ils sont passés d'un pays quasiment sans armée à « on veut la plus grosse armée d'Europe ». Ils sont en train de réinstaurer même des cérémonies. J'insiste souvent sur le sens et l'histoire parce que c'est important. C'est pas que du budget. Ils sont en train de réinstaurer des cérémonies d'anciens. Enfin, sur la mémoire militaire de l'Allemagne. Mais la mémoire militaire de l'Allemagne, il n'y a pas de quoi, voilà, pavoiser sur grand chose. C'est le premier budget militaire européen maintenant, l'Allemagne. Alors ils partent de beaucoup plus loin que la France, donc ils ont du retard entre guillemets à rattraper, mais voilà, ils sont en train de se remilitariser à fond. Le Japon, ils viennent de voter là la capacité de se doter à nouveau d'une force armée offensive, puisque depuis la Seconde Guerre mondiale c'était une force d'autodéfense. Enfin, c'est le partout. Par contre, là où on a un gros problème en France, c'est l'absence totale, et c'est aussi bien qu'on se retrouve là ce soir, l'absence totale de débat public sur ce sujet-là. Total. Omerta absolue. Je ne vais pas prêcher pour mon livre, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on s'est dit on va faire un coup éditorial, ça va sortir en même temps que le manuel de survie. C'est tombé la semaine où le chef d'état-major de l'armée française a dit il faut être prêt à sacrifier ses enfants-là. Et, tiens, l'éditeur, il n'y a pas mieux pour lui. Il dit putain, tu vas être invité partout. Pas une brève, même dans la presse de gauche, entre guillemets, la presse de gauche, puisque bon, ce qu'il en reste, mais pas un mot. On est dans un pays ou toucher à l'armée, c'est pire que encore toucher à la police. Alors je peux vous dire, pour la copine qui suit mon travail, déjà la police, on a ramé pour faire exister ce sujet-là dans le débat public. Maintenant, il existe, bon, au prix de beaucoup de mutilés et de tués. Hein, mais il existe. L'armée, c'est une dinguerie. C'est la première chronique que j'ai eue dans la presse, c'est dans un journal suisse, Cato de gauche. Là, c'est vachement bien de critiquer l'armée. Voilà. Et mais ça, je parle de moi, mais il n'y a eu aucun débat. On a voté des crédits de guerre, il n'y a pas de débat. Il y a des militaires qui passent sur les plateaux, ils n'invitent jamais quelqu'un, même modéré, enfin on s'en fout. Il n'y a jamais quelqu'un qui dit ce que je viens de vous dire, genre est-ce que la France est menacée par exemple. Enfin, puisqu'on nous répète la France est menacée. Il n'y a jamais personne. Et donc je prends le temps de vous dire ça, parce qu'en Espagne, c'est évidemment pas le cas. On a le gouvernement espagnol, il a dit mais nous on ne va pas hausser nos crédits de militaires. Et donc vous avez suivi, il y a eu un bras de fer avec Trump qui dit l'Espagne doit augmenter ses crédits militaires. Le gouvernement socialiste, hein, c'est pas des... Il dit, non, nous, on va pas niquer nos dépenses publiques pour l'armée. Et ça s'est arrêté là, quoi. Donc c'est possible de dire non, quand même. Même l'Italie de Meloni est beaucoup moins militariste que la France. Là, d'ailleurs, elle vient de dénoncer Israël. C'est-à-dire que l'Italie d'extrême droite est moins militariste et sioniste, etc., que la France de Macron, quoi. Donc il y a une omerta de ouf. Une presse catastrophique, et même l'Allemagne, qui pour moi est en train de prendre un virage absolument inquiétant, le gouvernement allemand a annoncé grosso modo la même mesure qu'en France sur le service militaire volontaire. Bon, les Allemands sont plus généreux, en France on promet le SMIC, les Allemands ils disent 2000 balles pour tous les jeunes qui s'engagent dans l'armée, bon, par mois. Mais cette mesure-là, elle a été débattue pendant 3 mois au Bundestag. Donc, si vous avez 3 mois de débat parlementaire, je ne défends pas le débat parlementaire, hein, mais si vous avez 3 mois de débat politique, bah, du coup, il y a des débats dans les médias, il y a des pour, des contre, on entend un petit peu un contre-discours, ce qui fait qu'en Allemagne, du coup, il y a eu des grèves lycéennes avec des dizaines de milliers de jeunes lycéens qui ont bloqué leur bahut contre cette mesure-là. En France, est-ce qu'on a entendu le moindre début de bribe de débat de l'annonce de Macron sur le service militaire? Absolument aucune. Il l'a annoncé en novembre, c'est rentré en vigueur en janvier. Fin. L'état d'exception. Voilà, donc en fait, on a un énorme problème, et donc
ça va être une des premières étapes là, sur les résistances, c'est faire exister déjà le débat. On part de zéro, faire exister le débat. On ne veut pas de guerre, on ne veut pas de militaire. C'est grave hein, de dire ça. Mais déjà, dire qu'on est contre la guerre, c'est déjà un geste subversif par les temps qui courent. Donc voilà. Donc, on a un gros problème, de pluralité médiatique, et je pense qu'on s'en est tous rendu compte sur bien d'autres sujets par ailleurs. Bah, aux États-Unis, malgré le trumpisme, il y a eu énormément d'universités occupées contre l'envoi d'armes en Israël déjà. En fait, c'est encore plus polarisé qu'en France. Aux États-Unis, il y a eu des manifestations. Là, vous avez vu ce mouvement No Kings. Il y a quand même des millions de personnes dans les rues. Et là, ils ont fait un No Kings le 1er mai, sachant qu'il n'y a pas de 1er mai aux États-Unis. Il n'y a pas de. Bon, c'est ni férié ni jour de grève le 1er mai. Et ils ont une fête du travail en septembre. Là, parce que c'est vraiment un pays où ils ont cassé vraiment les traditions de lutte à un point inimaginable. Et ben, le mouvement No Kings, le 1er mai, a fait des manifs pour le partage des richesses et contre la guerre. Donc c'est des choses qui existent, qui n'ont pas disparu. Il y a des résistances, il y a des résistances. Et donc c'est pas suffisant, puisque là c'est vraiment le cœur de l'Empire. Donc, bon. Mais nous aussi on est un des cœurs de l'Empire. Donc, voilà. Mais il y en a, ça existe. Ça renverse pas encore la table. Il y a eu des journées No Kings, il y avait les organisateurs en tout cas revendiquent plusieurs millions de personnes. Après, c'est des défilés très gentils, absolument pas offensifs, et Donald Trump répond en faisant des montages vidéo où il est dans un avion de guerre en train de bombarder de la merde sur les manifestants. Désolé, je le dis comme ça, mais c'est ce qu'il fait. Il met ça sur Twitter. Donc bon, voilà, c'est pour dire à quel point il s'en fout, mais ça existe, c'est un courant dans l'opinion. Et je pense que dans la jeunesse aux États-Unis, il y a un énorme bouleversement idéologique qui n'a pas eu lieu depuis la guerre du Vietnam sur la question palestinienne. C'est vraiment. Enfin, ils ont créé des campements dans les facs qui ont tenu des jours et des jours et qui ont été virés pour le coup par des flics avec des LBD, etc. Donc c'est quelque chose quand même. C'est pas rien du tout des campus occupés aux États-Unis sur une question de guerre.
Messieurs qu'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloignez la misère, nous sommes tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grands, si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer.
Bah déjà, la première chose sur la notion de guerre juste, déjà qui a été forgée il y a bien longtemps par des penseurs chrétiens, mais la guerre juste, toutes les guerres sont justes depuis toujours. C'est-à-dire que les Romains, avant d'aller raser une cité, ils arrivaient à élaborer un récit. Avant d'aller raser Carthage, ils disaient on est menacé. Poutine, il fait une guerre juste là pour lui, dans son récit. Donc voilà, donc guerre juste. Moi, je pense que là, tu poses du coup la question du point de vue des États. C'est-à-dire, et conflit interimpérialiste. Ben non, pas des peuples, là, du coup. Parce que les peuples, c'est ceux qui faisaient la révolution espagnole qui a été écrasée par Franco et qu'il aurait fallu, pour le coup, soutenir. Enfin, voilà. Donc, c'est des conflits interimpérialistes, la Seconde Guerre mondiale, comme la Première. Même dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, le camp des gentils, c'est celui qui a envoyé des bombes nucléaires, qui a aussi rasé d'ailleurs, qui a fait des bombardements massifs sur l'Allemagne, etc., qui a imposé un nouvel ordre mondial après-guerre, bâti sur des rivières de sang, enfin, on va pas faire de décompte macabre, mais voilà, c'est des situations comme ça. Donc après, c'est très compliqué. Moi, je me pose du côté de l'internationalisme et des peuples, et effectivement, il y a toute une partie qui pose cette question-là. Militarisme ou révolution, la guerre est-elle forcément contre-révolutionnaire, etc., puisqu'il y a toutes ces théories-là, de la lutte armée, de la guerre révolutionnaire, ça, c'est des vrais sujets. Donc, moi, je me suis basé sur plusieurs expériences. Bon, il y a déjà un poète comme Robert Desnos, qui était viscéralement antimilitariste, mais il y en a eu plein, hein. Viscéralement antimilitariste, et qu'on finit par prendre les armes dans la résistance. Voilà, et donc... Il dit ça un peu de façon poétique, mais c'est détester les armes, les prendre, mais toujours les détester et les relâcher le plus vite possible, parce que ce qu'on voit, c'est que même quand une révolution la plus bien intentionnée possible se militarise, c'est le militarisme qui gagne et pas la révolution. Et donc l'un des exemples les plus évidents, c'est la révolution russe, puisque le bolchevisme, c'est la militarisation de la révolution, littéralement. Et dans un contexte où on pourrait dire, oui, mais ils étaient attaqués par les tsaristes. C'est vrai. Mais du coup, c'est une révolution qui s'est militarisée, qui a du coup utilisé d'ailleurs d'anciens cadres militaires de l'ancien régime, parce qu'il fallait des gens compétents, entre guillemets. Et à l'arrivée, qui a pris le pouvoir? C'était des gens en uniforme, qui ont instauré un totalitarisme. Mais on peut dire ça aussi sur la Révolution française. On parlait de Valmy tout à l'heure. Robespierre, avant le début de la guerre, il a des discours antimilitaristes hyper forts, ce qui c'est fou, hein. Et il dit même, personne n'aime les missionnaires il dit pas en uniforme, mais personne n'aime les missionnaires armés. On ne peut pas imposer une idée par la violence armée, c'est impossible. Il est contre l'armée, il se méfie même de l'armée, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, l'armée c'était la noblesse. Il dit faut surtout pas faire la guerre, c'est la noblesse qui prendra du pouvoir. Et comme la France est attaquée par les troupes royalistes de toute l'Europe, il y a un basculement total qui se fait. C'est la terreur, la levée des citoyens pour aller faire la guerre, et donc un régime dictatorial. À l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? C'est Bonaparte qui prend le pouvoir. Puisque dans un processus militariste, c'est toujours un militaire à l'arrivée qui prend le pouvoir. Donc il y a plein d'exemples comme ça à travers l'histoire. Donc en fait, ce qui est terrible, c'est que une révolution militarisée peut gagner, mais elle perd politiquement à la fin, même quand elle gagne sur le plan militaire. Je ne sais pas si c'est clair. Et du coup, je passe aussi par une penseuse, Simone Veil, avec un W, la philosophe, et qui est un personnage extrêmement intéressant, parce que elle est à la fois chrétienne convertie, elle vient d'une famille juive, anarchiste, mystique. Enfin, donc c'est un esprit comme ça en éveil qui a réfléchi toute sa vie. Donc, elle venait de la bourgeoisie, elle s'est installée, elle est devenue prof, instit dans des communes rurales hyper prolo. Enfin, voilà, elle a fait et elle a produit une œuvre philosophique. Et elle, en tant que anar et chrétienne, ce qui est déjà voilà, amusant, mais anti-arme totale, pacifisme intégral, etc. Et donc, elle a des bonnes réflexions là-dessus. Elle dit, on ne peut que perdre si on se militarise, mais il y a la guerre d'Espagne. Qu'est-ce qu'on fait ? On a des camarades qui sont attaqués par une armée fasciste. Donc, elle va aider la guerre d'Espagne. Elle va au front. Mais bon, c'est pas une guerrière, donc elle se crame le pied en faisant à bouffer pour ses camarades. Donc elle revient en France. Mais de l'Espagne, elle tire des textes où elle a une analyse assez critique, où elle dit, bah, on se bat les armes à la main pour la bonne cause, mais moi j'ai vu mes camarades devenir un peu cons, parce qu'avec le militarisme, en fait, il y a eu des moments de brutalisation gratuite, de violence gratuite, enfin, vous voyez, tout ce que peut générer le fait d'avoir des armes et du pouvoir, quoi. Donc elle revient en France et dans les 3 ans qui séparent la guerre d'Espagne, le 36 de la Seconde Guerre mondiale, elle dit il faut éviter à tout prix la guerre et elle dit des conneries. Hein. Elle dit Hitler il faut pas le provoquer, il faut elle est pas munichoise mais quasiment quoi. Elle dit il faut tout faire, tout mettre sur la table pour empêcher la guerre. Et puis finalement la guerre de toute façon allait être déclenchée par Hitler. Et donc elle rejoint Londres, elle rejoint la résistance, et en fait elle dit effectivement il aurait peut-être fallu faire une guerre préventive contre les nazis, et elle meurt de désespoir parce qu'elle est prise dans ces contradictions là. Donc moi je prétends pas avoir une réponse définitive, ce dont je suis sûr c'est qu'une fois qu'il y a un processus de guerre qui est enclenché, c'est quasiment impossible de revenir en arrière, c'est une brutalisation extrême qui dure le temps de la guerre mais qui dure après, puisque c'est la Première Guerre mondiale qui crée le fascisme qui crée la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc en fait, c'est des cycles de violence qui sont inarrêtables. Et donc nous, peut-être avant d'en arriver à des considérations géopolitiques ou tactiques inter-États, déjà moi, je suis plutôt pour démanteler les États, comme ça il n'y a pas de guerre, mais voilà, ça c'est peut-être un horizon plus lointain. Mais avant de se dire ça, peut-être faisons tout pour enrayer les logiques militaristes. Parce que clairement, oui, une fois qu'un État est en guerre, ça devient des dilemmes qui sont quasiment insolubles. Il faut défendre la nation, mais quelle nation ? Je veux dire, les patrons n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Enfin, les patrons français et allemands ont plus d'intérêts communs que les travailleurs français et allemands. Enfin, ça, c'est la base, effectivement, de l'internationalisme qu'il faudrait faire vivre. Et effectivement, une des pistes de résistance, c'est tisser des liens avec des mouvements antimilitaristes du monde entier. Il faut savoir que c'était le cas avant 14-18. Hein. Les mouvements socialistes et syndicaux de toute l'Europe disaient « s'il y a une guerre », et notamment la CGT française a dit « s'il y a une guerre », ils étaient admirables, hein, la CGT française avant 14. « S'il y a un déclenchement de guerre, c'est grève générale, insurrectionnelle, révolutionnaire, parce qu'on refusera d'aller se battre ». Bon, on connaît la catastrophe qui s'est passée, puisqu'ils avaient fait le boulot, hein, la CGT. Ils avaient organisé des grèves préventives avant 14-18. Tout le monde voyait qu'il y allait avoir une guerre, parce que les impérialistes s'armaient et se préparaient au combat. Et la CGT a commencé à organiser les travailleurs avec des tracts de propagande qui disaient « on sabote l'outil de production s'il y a un début de guerre ». C'était balèze hein, quand même. Enfin, fallait du courage parce qu'en plus, c'était une menace, pour le coup, c'était une menace immédiate d'invasion. Et y compris avec des carnets, un cahier rouge qui donne un guide précis d'action. Le jour où il y aurait une guerre, ils ont fait des grèves préventives avant, ils ont mis des centaines de milliers de personnes dans les rues, mais il y avait aussi Jean Jaurès avait fait des discours disant « guerre à la guerre », etc. Et on sait très bien que la guerre, c'est ça. Jean Jaurès est assassiné, les troupes, il y a le jeu d'alliance qui se déclenche, et ça dure c'est en quelques jours, hein, faut se rendre compte. Il n'y avait pas Internet, et pourtant c'est allé à une vitesse fulgurante. Déclaration de guerre de tous les pays, et puis l'armée allemande qui rentre en Belgique et en France, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc la plupart des gens se sont ralliés à la guerre, quoi, y compris la CGT. Puis avec le double effet de choc où la grande figure anti-guerre Jaurès avait été buté, où les socialistes disent on va rejoindre l'Union sacrée et la guerre en hommage à Jean Jaurès. Enfin, faut se rendre compte du truc. Enfin voilà, c'est des moments comme ça de blast, quoi. Et il y a quelques personnes qui ont gardé la tête froide, des anarcho-syndicalistes, Rosa Luxembourg, etc. Et du coup, ils ont créé. Ils ont fait la conférence de Zimmerwald en Suisse où ils ont fait des déclarations conjointes en disant bon bah voilà mais en fait moi j'ai pas envie qu'on soit juste ça parce que en gros c'est des Cassandres quoi. Ils disent on l'avait bien dit, la boucherie mécanique est arrivée, il y a des centaines de milliers de morts, c'est catastrophique pour aucun pouce de terrain qui a bougé. Enfin ils le disent en 1915 etc. Ils disent, ok, comment on s'organise pour la sortie de ça? Et Rosa Luxembourg, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle mène quand même la révolution allemande en 1919. Mais elle se fait tuer par, par les corps francs. Donc voilà, c'est, tout ça, c'est des... Par là, ouais, par le SPD. Et donc, la militarisation la tue, puisque ce sont d'anciens soldats enrôlés d'extrême droite, enrôlés par le gouvernement de centre-gauche, qui tuent la révolution allemande. Parce que oui, désolé, je parle trop, mais parce que tous ces soldats, quand, une fois qu'ils sont démobilisés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce que c'est ça, la guerre aussi. La plupart, par exemple, des attentats d'extrême droite aux États-Unis, c'est d'anciens soldats. Très concrètement, hein. Y a plein d'anciens soldats français aussi qui ont dégoupillé, on n'en parle pas trop, mais qui se mettent à tuer leur entourage, qui pètent des plombs parce qu'ils ont des syndromes. Et il y a une chercheuse états-unienne qui dit « Chaque moment où il y a eu des résurgences du Ku Klux Klan et des trucs de suprémacisme blanc, c'est après le Vietnam, enfin après les terroristes d'extrême droite, après la guerre en Irak, etc. » On voit ça. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est en Ukraine, on est en train de mettre des quantités d'armes absolument astronomiques dans le paysage, avec des groupes d'extrême droite qui vont s'aguerrir au combat. Là, on n'imagine même pas les conséquences. Les mafias, les règlements de compte, on parle beaucoup de narcotrafic, etc. Les règlements de compte des mafias du narcotrafic aujourd'hui, c'est des armes d'ex-Yougoslavie qu'ils ont. Ils ont des armes de guerre, la plupart qui viennent des guerres, donc des années 90. Là, ce qu'on est en train de mettre en Ukraine, c'est des lance-roquettes, c'est des trucs... des millions d'armes, et il y en a déjà un tiers qui a déjà disparu dans la nature. Donc la guerre, c'est aussi, elle s'arrête pas au moment de l'armistice, quoi. C'est des cycles de violence qu'il faut, enfin, mais on a oublié ça parce que c'est pas dans notre histoire immédiate, c'est pas dans notre panorama, mais il faut le dire autour de nous, quoi.
Le djihad islamique qui est en Afrique
complètement.
Aussi, c'est suite à la guerre de Libye.
Mais Daesh est un produit des prisons états-uniennes en Irak. Baghdadi, fondateur de Daesh, c'était un prisonnier qui s'est durci en tôle, qui s'est aguerri, et quand il est sorti, il a créé Daesh. Hitler, c'est un produit de la guerre des tranchées. Il sort de la Première Guerre mondiale, il est exalté, il dit « on n'a pas assez fait la guerre, je veux continuer la guerre ». C'est ça le fascisme. Hein. C'est... Mussolini, avant-guerre, il est pacifiste, il sort des tranchées, nationaliste fanatique. Le capitalisme, c'est la guerre, et la guerre, c'est le capitalisme, mais il y a une partie là-dessus, mais bien sûr, ça a toujours été le cas. C'est de la prédation, la guerre. Donc. Mais peut-être que, parce que là, il est assez tard et on a peut-être envie de boire un coup ensemble, donc on peut esquisser quelques pistes de résistance, justement, très rapidement, si ça te va. Une des premières pistes, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais comme ça, on part des pistes les plus atteignables et les plus simples qu'on peut faire autour de nous, mais c'est, comme Fleur l'a dit déjà, le rire. Et sourire et reprendre la... re-ridiculiser l'armée, si j'ose dire. Parce qu'en fait, pendant effectivement des décennies dans les luttes anti-conscription, anti-service militaire, on se foutait de la gueule de l'armée. Et la figure du militaire, c'était une figure... Au mieux, c'était l'officier qui pue des pieds. Au pire, enfin voilà, on se foutait... Enfin, on n'avait pas envie de faire l'armée. Là, aujourd'hui, on a des communicants qui travaillent méthodiquement à rendre désirable l'armée et la guerre, et ça, c'est assez inquiétant. Je sais que je suis chez les anti-tech, mais je vais quand même parler de réseaux sociaux. On a des communicants qui ont embauché le premier youtubeur de France, Thibaut Inchep, c'est un mec qui fait de la muscu pour les gens qui connaissent pas, qui a 20 millions d'abonnés, et lui, il fait constamment des vidéos avec l'armée, avec Macron. Par exemple, je passe Noël avec l'armée française dans les Émirats Arabes Unis. Donc voilà, c'est très bien fait, c'est très bien monté. Il prend son avion, il va avec, dans l'avion de Macron, hein, bien sûr. Il va manger le repas de Noël avec les soldats français. Et puis le lendemain, il organise une séance d'entraînement de sport avec les soldats et Macron. Ils font des pompes ensemble, des tractions. Et c'est hyper sympa, ça donne vachement envie d'aller à l'armée. Et Macron est super cool, quoi. Putain, il fait des pompes avec le YouTuber. Enfin, et donc ça, c'est des mécaniques de propagande très bien ficelées. Et donc l'armée a recruté des stars de MMA, donc un sport de combat. Pareil, ils font des stages commando avec l'armée. Enfin, en fait, il y a profusion de contenu comme ça sur tous les réseaux sociaux. Et il y a aussi le format TikTok qui est encore plus décérébrant, je sais pas, mais TikTok, c'est un réseau où c'est vraiment des vidéos très courtes de 30 secondes. C'est même pas construit, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Et c'est des plans d'une demi-seconde. Et donc l'armée française met des plans comme ça de un bateau qui tire une bombe, un rafale, un soldat, le sous-marin nucléaire, hein. Comme ça on prend un effet stroboscopique, et ça c'est dans les fils d'actualité de tous les jeunes. Vous regardez une vidéo, je sais pas, sur une connerie, et vous avez rejoint l'armée, etc. Donc, une des pistes, c'est déjà reprendre une tradition satirique pour se foutre de la gueule de l'armée, rendre l'armée indésirable. Et nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est parodier les campagnes « Peux-tu le faire ?» Parce que celle-là, on la voit vraiment partout. Et ça, c'est adressé aux jeunes. Hein. C'est « Est-ce que t'es cap, quoi ? Peux-tu le faire de rentrer dans l'armée ? Ah, est-ce que t'es... » C'est un peu le défi, quoi. Vous avez vu cette pub ? Je suis pas en train de dire des trucs... Mais... c'est bien ici parce qu'on est parce que le bouquin, pour les gens qui l'ont pas lu, il commence par ça, parce que l'armée a investi des pubs, mais des panneaux 4x3 pour mettre peux-tu le faire. Je suis allé boire un verre dans un bar, c'est vrai hein, ce que je raconte, je l'ai condensé en une petite histoire en introduction, mais dans les tables de bar rondes, ils ont inséré peux-tu le faire, rentrer dans l'armée, dans la table. Donc tu bois ta ton demi, t'as ça, des stands de recrutement dans les salles de sport. Ils ont même investi dans les... Je sais pas comment on s'appelle, mais les enveloppes de baguettes de pain, là. Vous voyez, les enveloppes papier. On peut mettre des pubs. S'il y a des entreprises de com qui vendent des espaces publicitaires là-dessus, il y avait « Peux-tu le faire ?» avec la gueule d'un soldat, quoi, quand vous achetez votre baguette, quoi. Voilà. Donc, mais c'est bien. Ici, on est préservé. Donc, voilà. Donc, ils mettent du budget et une des... Mais il n'y a pas partout, tout le temps, mais c'est des campagnes, quoi.
Ça peut arriver.
Tapez « Peux-tu le faire ?», vous allez voir, vous aurez 15 milliards de clips de tout ce que vous voudrez sur Internet. Et donc, « Peux-tu le faire ?», bah, y a une campagne de parodie de ça. « Es-tu prêt à mourir pour les intérêts d'un industriel du pétrole ?»« Peux-tu le faire ?» machin. Voilà. C'est assez facile à détourner, pour le coup, sur le mode affiche. Voilà, faut aller mettre ça partout, autour des stands de recrutement, etc., aller bordéliser les recrutements, mais le faire sous un angle peut-être ironique, sarcastique, parce que effectivement, comme tu l'as dit, c'est un sujet qui tétanise les gens. Enfin, je veux dire, déjà les méga bassines, les gens ont peur de lutter contre, mais alors la guerre, les gens se disent, oh, c'est un espèce d'énorme truc inatteignable, on va jamais pouvoir le faire. Donc commençons par ça, déjà autour de nous, partout où on peut, ridiculisons-les, détournons leur campagne de com. Des petits contenus vidéo, je sais que ça fera pas plaisir aux camarades, mais voilà, faisons du contenu sur internet, parce que voilà, malheureusement la jeunesse c'est ce contenu là qu'elle bouffe dans le militarisme, quoi. Une autre piste, je l'ai dit, la France deuxième exportateur d'armes du monde, ce qui signifie 200 000 emplois dans le complexe militaro-industriel. Ça aussi c'est une emprise, hein, vraiment sur le territoire, et entre 2 et 5 000 sites lié à l'industrie de l'armement, parce qu'il y a tout un tas de sites qui sont un peu hybrides, où ça peut être un cabinet d'ingénieurs, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le chiffre de 2000 sites, ça veut dire qu'il y en a une vingtaine par département. Ça veut dire qu'autour de chaque grande ville, partout où on est, il y a des sites liés au complexe militaro-industriel. Ça veut dire qu'on peut les mettre en lumière, on peut leur foutre la honte. On peut dire « Thalès produit des armes qui sont utilisées pour le génocide à Gaza ». Donc ça, il y a déjà une campagne anti-Thalès. Et ça, c'est assez facile de le faire. Et pour l'instant, alors on les a pas encore renversés, mais pour l'instant, ça les fait chier parce qu'ils tiennent à leur image, ces gens-là. Et donc, ils n'en sont pas encore au point de mettre 300 flics quand on vient distribuer des tracts autour d'une usine Thalès. Pour l'instant, je dis pas que ça va... Mais c'est bien de leur foutre la honte et de dire « on sait où vous êtes, on sait ce que vous faites ». En plus, dès qu'on creuse sur l'histoire de ces firmes-là, on trouve des trucs de ouf. Thalès, c'était Thomson. Thomson, c'est une usine qui vendait des armes en Afrique du Sud. C'est une entreprise qui est probablement responsable de l'assassinat d'une militante sud-africaine qui s'appelle Dulcie September en France, avec l'aide des services de renseignement français. Enfin bref, et je suis sûr que si on gratte sur Safran, sur Meuf, hein, on trouve des trucs de ouf. Donc voilà, leur foutre la honte, et partout où on est, cartographier ces entreprises, faire des affiches, faire du contenu. Aller parler aux salariés, il y a un groupe qui s'appelle Stop Arming Israel, eux leur délire c'est d'aller parler aux salariés des entreprises d'armement pour leur dire peut-être pas démissionner, mais au moins aller dans la branche civile de l'entreprise. Enfin voilà, bon, c'est un travail de fourmi, hein. Commencer à cartographier ces choses-là, c'est assez facile de les bloquer, parce que souvent ils ferment même l'usine quand ils savent qu'il va y avoir une action, par exemple. Mais pour continuer là-dessus, donc le complexe militaro-industriel, c'est ces entreprises qu'il y a partout autour de nous, qu'on peut toucher, qu'on peut atteindre. Donc ça, c'est important, parce que c'est pas inatteignable. en tant qu'exportateur d'armes, non seulement en tant que pays exportateur d'armes, nous qui habitons là, non seulement on a la possibilité d'aller les emmerder, mais on en a même un peu le devoir, puisque c'est pas tous les pays qui ont autant d'entreprises d'armement. Et donc, effectivement, je te rejoins, ça peut être un travail fastidieux, même si nous, on va emmerder Euronaval là avec l'histoire du porte-avions, dont je parlerai dans 5 minutes. Mais peut-être qu'une cible plus nette et plus plus évidente, c'est les salons d'armement. Parce qu'effectivement, il y a plein de petites usines, mais il y a surtout en France des énormes salons internationaux d'exposition d'armes. Et ça, je veux dire, là, on a vraiment un devoir en tant qu'habitant de la France, puisqu'il n'y en a pas partout des salons comme ça. L'été dernier, il y avait le salon du Bourget, qui est un salon aéronautique. Il y a tous les marchands d'avions et de missiles du monde qui viennent exposer au nord de Paris, quoi. Et je veux dire, c'est pas juste de l'exposition, parce que dans un salon comme le salon du Bourget, il y a donc des dirigeants et leurs émissaires qui viennent. C'est dans ces salons-là qu'il y a des contrats qui sont signés à plusieurs milliards de dollars. Donc aller perturber un salon comme le salon du Bourget, voire même, rêvons un peu, on est 100 000, on arrive à l'encercler, à l'empêcher, là, on a un impact non seulement sur le complexe militaire industriel français, mais sur toutes les... peut-être mondial. Enfin voilà, rêvons un peu. Donc là, c'est du sérieux. Et il y a des salons comme ça tout le temps. Donc là, en juin, il y a un salon Eurosatory, pareil, salon de vente d'armes, au nord de Paris. Il y a une mobilisation qui s'organise. Elle partira de Saint-Denis. Voilà, donc ça, c'est du clair, c'est du net. Il y avait un peu de mobilisation contre ces salons-là dans les années 70, et depuis, il n'y en a quasiment plus. Donc, l'été dernier, on a été 4000 contre le salon du Bourget. C'est bien, parce que il y a des vieux antimilitaristes qui nous ont dit c'est pas arrivé depuis 40 ans. Moi, je suis pas content. Ça aurait été bien d'être... parce qu'il y avait peut-être autant de keufs que de manifestants. Mais voilà, si on arrivait à encercler un truc comme ça, mais là, c'est un message même pour tous les peuples qui subissent les guerres, quoi. Donc ça a de la gueule. Donc les salons, rapidement, sans les travailleurs et travailleuses, il n'y a pas de guerre, puisque la guerre, c'est la production, mais l'acheminement... mais c'est les flux, même s'il n'y a pas de livraison d'énergie, de pétrole, etc., il n'y a aucune armée qui peut fonctionner. Et donc, dans le livre, il y a quelques exemples comme ça, historiques, de luttes plus ou moins victorieuses, antimilitaristes, qui ont eu lieu. Par exemple, le blocage du port de Marseille pendant la guerre d'Indochine. Les dockers syndicalistes ont bloqué le port de Marseille pour empêcher les troupes d'embarquer. Il n'y avait pas tellement d'envoi de troupes par avion vers l'Indochine, ils ont jeté des armes dans la mer et ils ont empêché les armes de partir. Et ça a duré un mois et demi, deux mois. Ça, c'est costaud. Bon, ils ont été fortement réprimés, mais je veux dire, ça a un vrai impact matériel. Et surtout, il y a eu un mouvement de solidarité ouvrière dans toute la France, avec des grèves à Saint-Nazaire, au Havre, à Lorient, des actions de blocage partout. Et ça, c'est un peu un pan oublié de l'histoire antimilitariste. Qu'il faudrait déjà faire de l'antimilitarisme, ce serait juste organiser une soirée de présentation d'un truc comme ça. Retrouver peut-être des archives, juste ça, et dire ça existe, ça a été fait, c'est possible. Et bon,
ça a été fait en Italie.
Voilà, c'est ça que j'allais dire. Il y a les dockers de Fos qui l'ont un peu fait, mais timidement, et par contre, les dockers italiens, exemplaires. Ils ont non seulement fait ça, mais ils ont créé une grève générale, enfin, ils ont initié une grève générale dans toute l'Italie. Ce qui fait que Meloni, à la boîte d'extrême droite, maintenant, elle est obligée un peu de reculer sur le sujet. Donc, c'est pas perdu, quoi. C'est possible de mettre la pression. Ça a de la gueule. Il y a plein de petites histoires que je raconte dans le bouquin, et il y en a plein d'autres qui pourraient être racontées. Mais il y a le mouvement des femmes de Greenham Commons en Angleterre, où des femmes ont empêché une rampe de lancement de missiles nucléaires pendant la guerre froide. Enfin, là, vous imaginez les discours qu'il devait y avoir, parce qu'aujourd'hui on dit c'est irresponsable, mais à l'époque, faire ça, on disait mais vous travaillez pour la Russie, vous travaillez pour l'URSS, c'est pas possible, vous empêchez la dissuasion nucléaire anglaise. Bon, bah, elles ont tenu bon, elles ont occupé le chantier 20 ans, j'ai dit bien 20 ans, et le truc a été abandonné, quoi. Donc c'est possible d'empêcher un truc aussi délirant que une base de missiles nucléaires. Et je termine très rapidement. La dernière piste, mais je l'ai un peu dit avec le Bourget, c'est la création d'une coalition qui s'appelle Guerre à la guerre, qui a mis pas mal de temps à se construire. Guerre à la guerre, je l'ai dit, c'est le slogan de Rosa Luxembourg, c'est le slogan de l'anarcho-syndicalisme, c'est tout le slogan du mouvement internationaliste révolutionnaire du début du siècle dernier, qui est bien parce que c'est pas juste on est anti-guerre, c'est on va porter le combat. C'est une coalition, c'est pas une organisation. C'est-à-dire que dedans, il y a une palette de collectifs donc, qui vont des soulèvements de la terre pour la dimension écolo à Vietnam Dioxine, qui sont des descendants de la diaspora vietnamienne qui ont subi l'agent orange, dont je vous parlais tout à l'heure, des collectifs féministes, anticapitalistes, des médias indépendants. Enfin, voilà. Il y a une grande... des collectifs pro-palestiniens, évidemment, hein, pardon. Et donc, on a mis beaucoup de temps à trouver des lignes communes, parce que quand vous réunissez des structures différentes comme ça, il y a des points de divergence. Donc, il y a un programme en 10 points assez large pour dire, si vous vous reconnaissez là-dedans, rejoignez Guerre à la guerre. Moi, je pense que c'est surtout une plateforme d'action pour recréer un antimilitarisme populaire. Et cette coalition, elle a fait la mobilisation contre le Bourget l'été dernier. Elle va faire celle contre Euro Satori là dans quelques semaines. Mais aussi, on a créé un Guerre à la guerre Grand Ouest pour la Bretagne et un peu la Normandie. Et donc, on a lancé une manif contre le projet de porte-avions nucléaire de Saint-Nazaire. Voilà, à côté de Nantes, on a ce super projet de porte-avions à 10 milliards qui va militariser tout l'estuaire de la Loire. Donc là, c'est 10 fois pire que l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Là. Et donc, il y a des trucs très encourageants parce qu'il y a des syndicats ouvriers de Saint-Nazaire qui auraient très bien pu dire « Nous, on vous rejoint pas parce que c'est sacré de l'emploi. » Et là, ils ont eu ce courage de dire « On refuse l'économie de guerre. Pour nous, ces 10 milliards, ils pourraient servir aux hôpitaux. Et vous voulez donner de l'argent à la navale ? Eh ben nous, on veut... » Ils ont proposé des contre-projets, quoi. Filez-nous 10 milliards pour faire des bateaux hôpitaux ou des bateaux humanitaires. Voilà. Donc c'est classe. Je veux dire, les lignes, elles bougent quand même, y compris dans des syndicats productivistes, quoi. Et il y avait Solidaires et Force Ouvrière. Et donc on a fait une première très jolie manif lors de laquelle on a cramé une grande maquette de porte-avions sur la plage de Saint-Nazaire. Il y avait 2000 personnes. C'est à la fois... on a beaucoup travaillé pour ça, donc c'est à la fois pas tant. Et en même temps, c'est le point de lancement de quelque chose. Il se passe quelque chose, quoi. Et je sais qu'à Bordeaux, il y a un Guerre à la guerre qui vient de se créer, à Lyon. Ben voilà, et donc j'invite tout un chacun à créer des structures peut-être. Et je ne prêche pas pour Guerre à la guerre, parce que je sais qu'il y a des endroits où ils ont créé leur propre truc antimilitariste. L'intérêt d'avoir cette coalition-là, c'est que d'une part, elle est plurielle, et les choses peuvent se répondre. Parce qu'on a du matériel, on a une com commune, on a... Moi, j'ai des points de désaccord avec certaines orgas, mais voilà, il y a un site internet, on centralise le truc, il y a une charte commune. Donc voilà, si ça vous dit peut-être dans le Pays Basque, eh ben, je vous invite à au moins aller regarder ce que fait Guerre à la guerre pour la.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.